Extrait numéro 17, chapitre 20. Le poète Pouchkine. Puisque nous vous avons déjà deux ou trois fois cité des vers de Pouchkine, permettez que nous consacrions un chapitre à ce grand homme. Pouchkine, tué en 1837, populaire en Russie comme l'est Schiller en Allemagne, est à peine connu chez nous. C'est cependant tout à la fois un homme d'idées et de formes, un poète et un patriote. Jusqu'à lui, à part le fabuliste Krylov, la Russie n'avait pas eu la force d'enfanter un génie national. Un peuple ne compte intellectuellement au nombre des nations que lorsqu'il a une littérature en propre. De certaines fables de Krylov et des poésies de Pouchkine date l'ère intellectuelle de la Russie. La Russie a réellement ses poètes maintenant. Krylov, Pouchkine, Lermontov, Nekrassov, la comtesse Rostopchine. Elle a ses romanciers, Pissemsky, Turgenev, Grégorovitch, Tolstoï, Chtchedrine, Jadovskaya, Touho, Stanik. Du règne de l'empereur Alexandre, date de sa liberté, datera probablement son histoire. Revenons à Pouchkine. Pouchkine naquit en 1799 dans le gouvernement de Pskov. Il était fils d'un propriétaire et petit-fils par sa mère d'Annibal, nègre de Pierre Ier. Annibal, pris sur les côtes de Guinée, sauta par-dessus le bord du bâtiment qui l'emportait à plus de 25 lieues des côtes. Le malheureux captif n'avait pas l'espérance de se sauver, mais il avait celle de mourir. Celles-là même furent trompées, une barque mise à la mer le rattrapa. Il fut chargé de fer, mis à fond de cale, ramené et vendu en Hollande. Pierre Ier le vit à Amsterdam. On lui raconta l'histoire d'Annibal. Touché de cet amour de la liberté dans un nègre, il l'acheta et l'emmena en Russie, où l'intelligent Africain atteignit le grade de général et devint le créateur de l'artillerie russe. Le prince Pierre Dolgorouki, dans sa notice sur les principales familles de la Russie, prétend que, par les femmes, Pouchkine descend de la maison Pouchkine, qui, divisée dans les branches Brobrychev-Pouchkine et Moussine-Pouchkine, demeurait à Radcha, puis vint d'Allemagne en Russie pendant le XIIe siècle et donna à son pays d'adoption plusieurs boyards au XVIIe siècle et au XIXe siècle. Nous n'en croyons rien. Peut-être ces familles ont-elles réclamé Pouchkine depuis sa mort pour ajouter sa gloire littéraire à leur illustration historique. Mais à coup sûr, il n'était pas du vivant du poète question de cette parenté. Pouchkine en eut parlé lorsque, attaqué sur la bassesse de son extraction par Bulgarine, dans son journal, il répondit par des vers qui rappellent le « Je suis vilain » de Béranger et par cet épigramme que nous traduisons aussi littéralement que possible. « Monsieur de Bulgarine, qui me traite en nilote, décide que jadis mon grand-père Annibal, pour un verre de rhum, fut, par certains pilotes, acheté sur les bords du fleuve Sénégal. C'est vrai. Mais il devrait, à cette facétie, ajouter que ce fut ce pilote de Dieu qui, guidant le vaisseau de la Sainte Russie, la proue en Amérique et la poupe en Asie, joignit la mer de glace avec la mer de feu. Pouchkine, élevé au lycée impérial de Tsarskoe-Selo, fondé par Alexandre en 1811, fut naturellement un exécrable écolier. Il était encore dans ce collège où il était entré l'année même de sa fondation lorsqu'il fit en 1818 son ode à la liberté qu'il jeta sur le passage de l'empereur Alexandre et que celui-ci ramassa et lut. elle se terminait par ces vers sur la mort de Paul Ier. Scélérat couronné dans l'âme, je t'abhorre, toute ta race et toi. De mes jours mieux remplis, le plus cher eût été celui-là dont l'aurore eût pu voir ta ruine et celle de tes fils. Ton peuple qui d'effroi quand tu passes murmure, contemplant sur ton front le stigmate de feu, terreur de l'univers, honte de la nature, anathème vivant de notre terre, adieu. Lorsque la lune éteinte au fond du fleuve sombre sa nocturne clarté, pâle flambeau des cieux, quand tout repose et dort, il est un point dans l'ombre où le poète arrête un regard soucieux. C'est sur toi, noir palais, où nul feu ne s'allume, sépulcre menaçant dans l'ombre enseveli, qui nous apparaît triste et noyé dans la brume, mais encore plus noyé dans les flots de l'oubli. Mais à peine rêveur est-il là, le poète, que du haut de ses murs, comme un sinistre écho, il entend retentir la lugubre trompette qui sonne vengeresse aux lèvres de Clio. Alors monte, pareil aux nocturnes marées, un cortège muet d'hommes mystérieux, aux poitrines sans cœur, de cordons chamarrés, aux regards inquiets, aux pieds silencieux. Il se tait devant eux, le soldat infidèle, dont le bruyant qui vive aurait dû retentir. Il s'abaisse le pont de l'âpre citadelle, livrant l'hôte royal qu'il devait garantir. Un passage est ouvert par une main vendue, la porte s'entrebâille, au poignard acharné, et dans la sombre nuit, fuyant l'âme éperdue, il crie, il tombe, il meurt, le bandit couronné. Ô tsar, quelle leçon! Vos polices, vos sbires, vos tortures, brisant les membres palpitants, vos gibets qui du ciel rapprochent les martyrs, voyez, tout fait défaut quand Dieu dit « il est temps ». Si vous voulez sauver vos fragiles couronnes, ô tsar, renoncez donc à vos sanglants décrets, et désormais pour garde, au degré de vos trônes, placez la liberté, la justice et la paix. Nous avouons que c'est avec une certaine répugnance que nous traduisons cette ode. L'injure n'est ni dans notre talent, ni dans notre caractère, et c'est autant pour faire connaître l'indulgence d'Alexandre que le génie de Pouchkine, que nous la mettons sous les yeux de nos lecteurs. En effet, Pouchkine, qui faisait à un pauvre empereur rendu à moitié fou par la solitude et les macérations l'injustice de le traiter comme un tyran, Pouchkine, sous le règne du fils de celui dont il traînait le cadavre aux Gémonies, ne fut ni arrêté, ni jugé, ni condamné. Il lui fut enjoint de quitter Saint-Pétersbourg et de retourner chez son père. Quelque temps après qu'il se fut retiré chez son père, Pouchkine reçut l'ordre de se rendre au Caucase. Chez nous, recevoir l'ordre d'aller risquer sa vie le fusil à la main n'est point une punition, c'est une faveur. La solitude, les montagnes, les torrents, les sommets neigeux, la mer est insolente, tout cela redoubla l'énergie mélancolique de Pouchkine et fit le génie poétique que la Russie admire. Et en effet, de là-bas, des gorges du Térec, des bords de la Caspienne, il jetait ses vers à la Russie, et le vent qui vient d'Asie les portait jusqu'à Moscou et jusqu'à Saint-Pétersbourg. Ce fut alors que parut son « Prisonnier du Caucase », poème contemporain des poèmes de Byron et qui égale le corsaire et le giaour. Le génie de Pouchkine intercéda pour lui près de l'empereur et le poète reçut l'autorisation de revenir près de son père. Il était à Pskov lorsque noua la fameuse conspiration de Pestel, de Rileyev, de Mouraviev Apostol, de Bestoujet et de Kokovski. Rileyev essaya d'entraîner Pouchkine. mais raisonnable cette fois, Pouchkine, qui ne croyait pas à la réussite du complot, refusa d'y participer. Cependant, le 5 ou le 6 septembre, voulant assister aux événements qui se préparaient, il emprunta le passeport d'un ami et, quittant Pskov où il était interné, il partit en poste pour Saint-Pétersbourg. Il n'avait pas fait trois verstes qu'un lièvre croisa son chemin. Un lièvre qui croise votre chemin est, en Russie, le pays le plus superstitieux de tous les pays, un signe de malheur, ou tout au moins l'avertissement que l'on est menacé d'un malheur si l'on continue sa route. Chez les Romains, c'était lorsqu'on heurtait une pierre. On connaît le mot si mélancolique de bailli, conduit à l'échafaud et trébuchant sur un caillou. Un Romain serait rentré chez lui. Tout superstitieux qu'il était, Pouchkine brava le présage et au postillon qui se retournait pour lui demander ce qu'il y avait à faire, il cria « En avant !» Le postillon obéit. Trois ou quatre vertes plus loin, même présage, un second lièvre croise une seconde fois le chemin du poète. Une seconde fois, le postillon se retourne. Pouchkine resta un instant indécis et pensif. Puis, en français, « Allons, dit-il, les plus courtes folies sont les meilleures. Retournons. » Pouchkine dut, selon toute probabilité, la liberté, sinon la vie, à cette circonstance. Arrêté à Saint-Pétersbourg après les événements de décembre et riche de ses antécédents, Pouchkine eût été pendu avec Rileïev ou exilé en Sibérie avec Troubetskoï. Il apprit à Pskov la mort et l'exil de ses compagnons. Homme de lutte, il écrivit aussitôt « Peu de règne et déjà beaucoup d'ouvrages faits, 102 en Sibérie et 5 mis au gibet. » L'empereur Nicolas connut-il ou ignora-t-il cette nouvelle offense de Pouchkine à la royauté ? Ce qu'il y a de certain, c'est que, du procès de décembre, data la rentrée en grâce du poète. La lettre où il refusait de prendre part au complot avait été trouvée parmi les papiers des condamnés. Elle avait été mise sous les yeux de l'empereur et celui-ci, qui n'approfondissait pas le motif qu'il avait dicté, tout heureux après une si terrible sévérité de pouvoir accorder une faveur, fit venir Pouchkine à Saint-Pétersbourg. Lorsque l'ordre impérial lui fut transmis, Pouchkine se regarda comme perdu. Nicolas, montant sur le trône, avait-il désapprouvé l'indulgence d'Alexandre et allait-il faire payer une seconde fois son compte de l'ode à la liberté qu'il croyait soldée ? Ou, ce qui était bien plus à craindre encore, l'empereur avait-il eu connaissance du distique qui venait de tomber de sa plume. Dans tous les cas, il n'y avait point à éluder l'ordre, il partit pour Saint-Pétersbourg et, à son grand étonnement, y reçut l'accueil le plus gracieux. L'empereur le nomma historiographe de la Russie et commença par lui commander l'histoire de Pierre Ier. Mais par un de ses caprices particuliers au poète, Pouchkine, au lieu d'écrire l'histoire du règne de Pierre Ier, écrivit celle de la révolte de Bougatchev. Les Russes eux-mêmes ne font pas grand cas de cet ouvrage. Son nouveau titre inspirait mal Pouchkine. Mais il faut le dire, cette faveur de l'empereur Nicolas ne changea rien aux opinions, ni surtout aux sympathies de Pouchkine. Loin d'oublier ses amis de Sibérie, ils ne lui en devinrent que plus chers, et en toute occasion, il leur jetait la plainte du cygne ou le cri de l'aigle. Tous les ans, un dîner réunissait les élèves de Tsarskoe-Selo. Ce dîner était donné en l'honneur de la fondation du collège et aussi, comme notre dîner de Sainte-Barbe, dans le but de resserrer les liens de cette amitié qui, nouée au collège, se relâche dans le monde. quatre des plus illustres élèves manquaient à ce dîner, où ils eussent dû se trouver et qui avaient fini leurs études le même jour que Pouchkine. C'était Valkorski, guerroyant au Caucase, Matuskine, officier de marine, occupé à faire le tour du monde, Pouchkine, cousin du poète, et Kouelbecker, ensevelis tous deux comme décembristes dans les mines de la Sibérie. Pouchkine se leva et, quand il s'agissait de la Sibérie pour lui-même, s'il eût été dénoncé, il improvisa ce toast. Que Dieu soit en aide, ami, dans ce bas monde, au milieu des soucis renaissant chaque jour, au milieu des plaisirs que vous promet l'amour, au milieu des festins dont la sagesse gronde. Que Dieu vous soit en aide, ami, dans ce bas monde, au moment où des yeux coulent des pleurs amers, soit que vous parcouriez l'immensité des mers, ou languissiez captif dans la mine profonde. Un silence de mort suivit ce dernier vers. Puis, tout à coup, la salle du festin, tout entière, éclata en bravo. Sur 60 élèves qui assistaient au repas, il n'y eut pas un dénonciateur. C'eût été beau partout. C'était plus beau que partout en Russie, sous l'empereur Nicolas. Un autre jour, Pouchkine entrait à l'improviste dans le cabinet d'un de ses amis qui écrivait en Sibérie à un décembriste. Il prit la plume et, de son côté, écrivit. « Au fond des souterrains de l'âpre Sibérie, gardez votre constance et vos sombres labeurs. La clémence du ciel, ami, n'est point tarie. Dieu voit votre travail et comptera vos pleurs. Rien ne sera perdu, ni l'élan de vos âmes, blé semé par vos mains au champ de l'avenir, ni les prospérités de nos tyrans infâmes, que Dieu ne garde sauf que pour les mieux punir. L'amour de vos amis, dont peut-être l'on doute là-bas, où l'on trébuche et tombe dans la nuit, croyez-moi, jusqu'à vous saura s'ouvrir la route. Au plus sombre cachot, parfois, l'étoile luit. Il entrera, pieux, jusque dans votre tombe, et le guidant au bruit de vos généreux fers, ma muse secouera ses ailes de colombe sur vos fronts de martyrs, saignant, mais toujours fier. De sa voix consolante, elle vous dira « Frère, me reconnaissez-vous ? J'arrive, me voilà. Ce n'est plus l'espérance aux lueurs mensongères. C'est la liberté sainte. Elle approche, elle est là. L'heure est lente à sonner, qui venge les victimes. Mais elle sonnera peut-être dès demain, et vous nous trouverez au seuil de vos abîmes, vous attendant debout et le fer à la main. » Ces vers, qui ne pouvaient être imprimés, circulaient manuscrits. Et la popularité de Pouchkine grandissait chaque jour dans cette jeune génération, chez laquelle un sang plus chaud entretient les idées généreuses. Sur ces entrefaites, il devint passionnément amoureux d'une jeune fille qu'il épousa. C'est dans la première période de son mariage et de son bonheur qu'il publia deux ou trois poésies d'une forme variée, mais au fond desquels on voit toujours battre le cœur mélancolique et vivre l'esprit amer de l'auteur. Il y a de tout dans les poésies de Pouchkine. Son génie si souple et si malléable se pliait à tout. Ou plutôt, son génie était si puissant qu'il soumettait tout à la forme qu'il lui plaisait de choisir. Vous avez pu apprécier, à travers notre faible traduction, sa manière dans l'ode. Voici de l'épigramme. Épousez la belle duchesse, vous êtes riche, elle n'a rien. Elle ira bien à la richesse et les cornes vous iront bien. Voici du madrigal. Que vous dirai-je bien en vers, et tout à coup moi de la vérité le disciple fidèle, sans y penser je dis, vous êtes la plus belle. Et redis même chose en y pensant beaucoup. Voici de l'amour. Le désir près de toi me brûle de sa fièvre. Du feu de tes regards, mon cœur est consumé. Baise-moi, mon amour, le baiser de ta lèvre est plus qu'un vin de graisse et doux et parfumé. Maintenant, immobile à mes côtés, demeure, afin que sur ton sein je dorme jusqu'à l'heure où de la sombre nuit triomphera le jour. Penche-toi sur mon front, que ton souffle m'effleure. Oh, que j'aime! Et toi, m'aimes-tu, mon amour? Voici du découragement. L'écho. Que le loup hurle au bois pendant la nuit profonde, que résonne le corps, que le tonnerre gronde. Que de l'autre côté du sommet escarpé, comme un oiseau joyeux chante la jeune fille. Soudain ta voix dans l'air ou rugit ou babille et rend un son pareil au son qui t'a frappé. Aucun bruit jusqu'à toi sans réponse n'arrive. Si la vague murmure en caressant la rive, si dans le sol le pâtre enfonce un pieu durci, vague, tempête, loup, corps, jeune fille, pâtre, chacun a sa réponse, imposante ou folâtre. L'écho seul, sans écho, meurt. Le poète aussi. Voici de la fantaisie. Les deux corbeaux. Le corbeau vers le corbeau vole et tout en croassant lui dit « Où déjeuner ? Sur ma parole, ce matin, j'ai grand appétit. » À l'oiseau, l'oiseau répond « Frère, je vais te tirer d'embarras. Un chevalier sur la bruyère, dans son sang est touché là-bas. Qui commit l'action infâme ? Dans quel but la commit-on ? Nul ne le sait sinon sa femme, sa jument noire et son faucon. Le faucon s'est, à tire-d'aile, envolé dans le bois altier, et sur sa jument infidèle a disparu le meurtrier. Et la femme, beauté farouche, qui ne se permet qu'un servant, attend le baiser à la bouche, non l'ami mort, mais le vivant. Avec les fragments sur le tsar Pierre et sur les nuits d'été, ce que nous venons de citer donnera, nous l'espérons, une idée assez exacte du génie de Pouchkine. D'ailleurs, toutes les fois que nous le rencontrerons sur notre route, nous ne nous ferons pas faute de le traduire. Pouchkine a en outre laissé deux volumes de prose, l'un qui contient la conspiration de Pougatchev, l'autre plusieurs nouvelles, dont l'une est connue en France, La fille du capitaine. Nous avons traduit trois autres de ces nouvelles, Le coup de feu, Le chasse-neige et Le faiseur de cercueil. Pouchkine était arrivé à l'apogée de son talent et au plus haut point de sa popularité lorsque survint l'événement qui l'enleva à la Russie à l'âge de 38 ans. L'aristocratie russe était fort jalouse de Pouchkine, qui s'était fait une noblesse bien autrement sonore et retentissante que celle des plus illustres seigneurs contemporains. En temps de guerre, la lyre du poète domine même le bruit des armes. En temps de paix, toutes les vibrations de l'air, tous les échos de l'âme sont à lui. On spécula sur ce cœur passionné que faisait battre un sang africain pour faire saigner ce cœur si l'on ne parvenait point à le briser. Peu de jours passaient sans que Pouchkine décachetât une lettre anonyme. Ces lettres anonymes avaient pour but de lui inspirer sur la fidélité de sa femme les soupçons les plus injurieux. Ces soupçons avaient pour objet un jeune homme nommé Dantès, qui fréquentait la maison de Pouchkine. Pouchkine fit comprendre à Dantès que ses visites lui déplaisaient. Dantès cessa ses visites. Tout alla bien pendant quelque temps. Mais un soir, en rentrant, Pouchkine rencontra Dantès dans son escalier. Cette fois, la colère l'aveugle. Sans explication aucune, il saute à la gorge du jeune homme et veut l'étrangler. Celui-ci, en se débattant, parvient à prononcer quelques mots, et Pouchkine croit comprendre que Dantès lui dit qu'il ne vient point pour sa femme, mais pour la sœur de sa femme. « Il y a un moyen de me prouver que vous ne me mentez pas, » dit Pouchkine. « Lequel ? Vous aimez la sœur de ma femme ? Oui. Eh bien, épousez-la. Je vous demande la main de votre belle-sœur, monsieur, » répondit Dantès. « Ayez la bonté de transmettre ma demande à ses parents. » Un mois après, Dantès était marié avec Mademoiselle Gantchtovna, belle-sœur de Pouchkine. Certes, après cette preuve, donnée par Dantès de son innocence et de celle de Madame Pouchkine, on crut tout terminé. Tout l'eût été en effet si une haine inconnue n'eût pas juré la perte du poète. Les lettres anonymes recommencèrent. Elles disaient que le mariage n'était qu'une feinte infâme pour rapprocher les deux amants. Pouchkine renferma pendant plusieurs mois la rage, la haine, le fiel qui bouillonnait dans son cœur. Puis enfin, ne pouvant plus supporter la vue de son beau-frère, il lui déclara qu'il devait ou quitter la Russie ou se battre avec lui. Dantès employa tous les moyens qui pouvaient rassurer Pouchkine. Pouchkine était devenu fou. Il menaça Dantès de lui faire une de ces insultes publiques qui ne laissent à un homme d'autre choix qu'un duel ou le déshonneur. Dantès supplia Pouchkine de mettre un intervalle de 15 jours entre celui où il le provoquait et le jour du duel. Il espérait que pendant ces 15 jours, Pouchkine se calmerait et renoncerait à sa terrible résolution. Pouchkine accorda les 15 jours. Mais le matin du 15e jour, le colonel, aujourd'hui général d'Anzas, son témoin, était chez Dantès. Dantès essaya encore de ramener, par l'intermédiaire de ce témoin, Pouchkine à de meilleurs sentiments à son égard. Si brave qu'il fût, il éprouvait une mortelle répugnance à ce duel insensé. Enfin, il lui fallut céder. Les instructions de Pouchkine étaient positives. Il fut convenu que l'on se battrait au pistolet, on ne se bat guère autrement en Russie, et ce fut au pistolet que se battit Lermontov. C'est une balle qui tua cet autre poète, héritier du génie de Pouchkine. Le même jour, on se rendit sur le terrain. Il avait été choisi au-delà de la Neva, à une demi-verste du fleuve, dans un bois peu distant des dernières maisons. Les pistolets furent chargés, Pouchkine en surveilla lui-même le chargement pour être sûr que les balles n'en seraient pas distraites. On mesura 30 pas, les adversaires devaient se battre en marchant l'un sur l'autre. Chacun d'eux pouvait faire 10 pas, ce qui réduisait à 10 mètres la distance du feu. Dantès resta à sa place. Tandis que Pouchkine marchait encore, il tira. Pouchkine avait fait 8 pas. Dantès tirait donc à 22 pas. Pouchkine tomba sur le coup. Mais aussitôt se relevant, il ajusta son adversaire et fit feu à son tour. Dantès attendait le coup, se garantissait le visage avec son pistolet déchargé. La balle de Pouchkine lui traversa les chairs de l'avant-bras et emporta un bouton de son habit. « Recommençons, » dit Pouchkine. Mais à peine avait-il prononcé ce mot que les forces lui manquèrent et qu'il retomba pour la 2e fois. Dantès voulut s'approcher de lui, mais la haine survivait à la blessure. Pouchkine lui fit de la main le signe de s'éloigner. Dantès obéit. Les deux témoins alors examinèrent la blessure de Pouchkine. La balle entrait dans le côté droit du ventre, entre les fausses côtes et le foie, et se perdait dans les entrailles. On porta Pouchkine dans sa voiture, on le ramena chez lui. Il était 6 heures de l'après-midi. Son valet de chambre le reçut des mains du lieutenant-colonel d'Anzas, le prit sur ses bras et l'emporta par les escaliers. « Où faut-il porter, monsieur ?» demanda le valet de chambre. « Dans mon cabinet, » répondit Pouchkine, « et prends garde que ma femme ne me voie. » Madame Pouchkine ignorait tout. On apporta Pouchkine dans son cabinet. Il se tint debout, appuyé à une chaise, tandis qu'on lui ôtait ses habits et sa chemise ensanglantée et qu'on lui passait du linge blanc. Puis il se coucha sur un divan. Pendant que son domestique le couvrait d'un drap, Pouchkine entendit et reconnut le pas de sa femme. « N'entre pas, lui dit-il, j'ai quelqu'un !» Mais elle, se doutant de quelque chose, ne tint pas compte de la défense et entra. « Qu'as-tu, bon Dieu ? » demanda-t-elle en le voyant pâle et couché. « Je suis indisposée et me suis jetée sur ce divan, » répondit Pouchkine. « Veux-tu que l'on envoie chercher un médecin ?»« Oui, Arendt, écris-lui un mot. » C'était un moyen de faire sortir Madame Pouchkine. Elle sortit en effet. Pendant son absence, Pouchkine donna ses instructions à son valet de chambre. Il devait, s'il ne trouvait pas Arendt, aller chez Scholz et Jadler, deux autres médecins de la connaissance de Pouchkine, et prévenir deux de ses amis, le poète Joukovski et le docteur Dahl, médecins, mais plus hommes de lettres que médecins. Ni Joukovski, ni Dahl, ni Arendt n'étaient chez eux. Le valet de chambre ne trouva que Scholz et Jadler. Tous deux accoururent. On fit sortir Danzas et Madame Pouchkine, ou plutôt Danzas emmena Madame Pouchkine, et les deux docteurs examinèrent la blessure. « Je me sens très mal, » dit Pouchkine, en faisant avec angoisse le mouvement qui devait mettre la plaie sous les yeux du médecin. Scholz fit signe à Jadler, qui sortit pour aller chercher une trousse de chirurgie. Resté seul avec Scholz, le blessé lui demanda « Que pensez-vous de ma position ? Voyons, parlez franchement. »« Je ne puis vous cacher qu'elle est grave et que vous êtes en danger, » répondit Scholz. « Dites mieux, je suis un homme mort, n'est-ce pas ? Le moment venu, je regarderai comme un devoir de ne vous rien cacher. Mais attendons Arendt, c'est un homme fort savant et lui et moi serons probablement du même avis. Bon ou mauvais, cet avis vous sera une certitude de plus. Je vous remercie, dit Pouchkine en français. Vous agissez comme un honnête homme. Il faut que j'arrange ma maison. Ne voulez-vous pas que l'on prévienne quelques-uns de vos parents ou de vos amis ? Lui demanda Scholz. Pouchkine ne répondit rien, mais tournant la tête du côté de sa bibliothèque. « Adieu, mes bons amis, » dit-il en russe, sans que l'on pût savoir s'il s'adressait aux amis morts ou aux amis vivants. Un peu après, il demanda « Croyez-vous que je vive encore une heure ?»« Oh, bien certainement, et si je vous ai fait cette question, c'est que j'ai cru qu'il vous serait agréable de voir quelques-uns des vôtres. Monsieur Pletnieff, par exemple, il est ici. » « Oui, » répondit Pouchkine, « mais je voudrais surtout voir Joukovski. » Puis tout à coup, « Donnez-moi de l'eau, » dit-il, « le cœur me manque. » Scholz lui tâta le pouls. Il lui trouva la main froide et le pouls faible et rapide. Il sortit pour aller préparer une boisson. Pendant qu'il préparait cette boisson, rentra Jadler. Avec ses instruments de chirurgie, il ramenait un médecin nommé Salomon. Sur ces entrefaites, le docteur Arendt arriva. Au premier examen de la blessure, il vit qu'il n'y avait aucune espérance à conserver. Il ordonna des compresses d'eau glacée sur la plaie et des boissons rafraîchissantes. Ce mode de traitement produisit l'effet qu'on attendait. Le blessé se trouva plus calme. Pendant ce temps, Spassky, le médecin habituel de la maison, était arrivé. Arendt laissa le blessé à ses soins. Les trois autres docteurs, rassurés par la science et surtout par l'amitié de leurs confrères pour Pouchkine, se retirèrent avec Arendt. « Je suis très mal, mon cher Spassky, » dit Pouchkine, lorsque ce dernier s'approcha de lui. Spassky essaya de le tranquilliser, mais Pouchkine fit de la main un signe négatif. À partir de ce moment, il ne parut plus songer à lui, mais s'occupa seulement de sa femme. Surtout, disait-il à Spassky, ne lui donnez pas trop d'espérance, ne lui cachez pas ma position. Vous savez qu'elle n'a aucune force sur elle-même. Quant à moi, faites de moi tout ce que vous voudrez. Je consens à tout, je suis prêt à tout. Et en effet, sans savoir combien le danger était grand, Madame Pouchkine était en proie à un désespoir facile à comprendre. Quoique forte de son innocence, elle savait parfaitement que c'était à cause d'elle que le duel avait eu lieu, et elle ne pouvait se pardonner d'être la cause involontaire d'un malheur qu'elle était loin de soupçonner aussi grand qu'il était. De temps en temps, elle entrait, légère et muette comme une ombre, dans la chambre de son mari. Celui-ci, la face tournée contre la muraille, ne pouvait la voir, mais chaque fois qu'elle entrait, on eût dit que le blessé devinait sa présence. Alors, tout bas, il disait à Spassky, « Ma femme est ici, emmenez-la, je vous prie. » Il semblait moins s'inquiéter de ses souffrances que craindre de les lui laisser voir. « Pauvre femme, » dit-il une fois à Spassky avec un léger mouvement d'épaule, « le monde va la déchirer à belles dents, et pourtant elle est innocente. » Et toutes ces choses, il les disait avec un accent aussi calme que s'il eût été dans son état de santé habituel. Car à l'exception de 2 ou 3 heures de la première nuit, pendant lesquelles ses souffrances dépassèrent la mesure des forces humaines, il fut étonnamment ferme. « J'ai assisté à 30 combats, répéta souvent depuis le docteur Arendt, j'ai vu beaucoup de mourants, mais jamais un seul qui eut le courage de celui-là. » Quelque chose de plus bizarre encore s'accomplit. Pouchkine était d'un caractère irritable et violent. Eh bien, ses premières heures de souffrance domptées, il était devenu un autre homme. L'orage qui pendant toute sa vie avait grondé dans son cœur semblait éteint sans lui laisser de traces. Pas un seul mot ne fut prononcé par lui qui rappela son impatience passée. Déjà, comme si, dans la sérénité de la mort, il eût plané au-dessus de l'humanité, il semblait avoir oublié jusqu'à sa haine. Gretsch et Bulgarine l'avaient constamment attaqué dans leur journal et presque toujours il avait répondu à ses attaques avec une sombre amertume. Eh bien, au milieu de ses souffrances, il se souvint que la veille il avait reçu une lettre de faire part de la mort du fils de Gretsch. « À propos, » dit-il à Spassky, « si vous voyez Gretsch, saluez-le de ma part et dites-lui que je compatis du fond du cœur au malheur qui lui arrive. » On lui demanda s'il voulait se confesser et communier. Il consentit à tout, demanda au médecin s'il croyait qu'il dût vivre le lendemain jusqu'à midi, et sur la réponse affirmative, il donna l'ordre qu'on allât chercher le prêtre à 7 heures du matin. Ses devoirs religieux remplis, Pouchkine sembla éprouver, s'il était possible, un redoublement de sérénité. Il appela alors Spassky et le pria de lui donner quelques papiers, lui indiquant la place où ils étaient. C'étaient des papiers écrits de sa main. Puis il appela le lieutenant-colonel d'Anzas, qui était revenu au point du jour chercher de ses nouvelles, et lui fit prendre note de quelques dettes à lui. Ce travail le fatigua néanmoins. Ce fut au point qu'il n'essaya pas même de faire les autres dispositions dont il avait parlé. Se sentant très faible, il crut un instant qu'il allait mourir, et dit vivement et d'une voix haletante à Spassky : « Ma femme ! Appelez ma femme !» Madame Pouchkine, qui sans doute écoutait à la porte, entra aussitôt. Il y eut alors une scène de douleur que l'on ne saurait décrire. Pouchkine demanda ses enfants. Ils dormaient encore. On les réveilla et on les conduisit à leur père, à moitié endormis. Il les regarda longtemps l'un après l'autre, leur posa la main sur la tête, les bénit. Puis, sentant qu'une trop profonde émotion le gagnait, et voulant sans doute garder ses forces pour le moment suprême, il les renvoya d'un mouvement de la main. Lorsque les enfants furent sortis, « Qui est ici ? » demanda-t-il à Spassky et à Danzas. On nomma le poète Joukovski et le prince Vyazinski. « Appelez-les, » dit-il d'une voix faible. Il tendit sa main à Joukovski. Celui-ci, en la sentant glacée, la porta à sa bouche et la baisa. Le prince Vyazemski voulut parler, mais les paroles s'éteignirent dans sa gorge. Il se retirait pour dérober à Pouchkine ses sanglots, lorsque Pouchkine le rappela. « Dites à l'empereur, murmura-t-il, que je regrette de mourir. Je serai tout à lui. » Dites-lui que je lui souhaite un règne long, bien long, et du bonheur dans ses enfants et dans la Russie. » Il prononça ces mots lentement et faiblement, et cependant d'une manière claire et intelligible. Puis il fit ses adieux au prince Vyazinski. En ce moment arriva chez lui Vielgorski, fameux violoncelliste, maître des cérémonies de la cour. Vielgorski venait lui serrer une dernière fois la main. Pouchkine la lui tendit en silence et en souriant avec un œil distrait et qui semblait déjà plongé dans l'éternité. En effet, un instant après, s'étant lui-même tâté le pouls, il dit à Spassky « Voici la mort qui vient ». Tourguenieff, l'oncle du célèbre romancier actuel, vint à son tour. Mais pas plus qu'à Vielgorski, Pouchkine ne lui adressa la parole. Il se borna à faire un signe de la main en ajoutant avec effort, mais sans s'adresser à personne, « Madame Karamsine ». Elle n'était point là. On l'envoya chercher. Elle accourut. L'entrevue ne dura qu'une minute. Mais quand elle s'éloigna, il la rappela en disant « Catherine Alexiovna, « faites sur votre ami le signe de la croix. » Madame Karamsine fit le signe de la croix sur le blessé qui lui baisa la main. Une dose d'opium qu'il prit en ce moment lui donna un peu de tranquillité, tandis que quelques compresses émollientes que l'on mettait sur sa blessure en adoucissaient la flamme. Déjà, depuis quelque temps, il était devenu doux comme un enfant, aidant sans plainte ni impatience ceux qui le soignaient, de sorte qu'en apparence il était mieux. Ce fut ainsi que le trouva le docteur Dahl, homme de lettres et médecin que nous avons déjà nommé. Pour cet ami qui l'attendait depuis la veille, il fit un effort. « Ami, lui dit-il en souriant, il était temps que tu arrivasses, je suis bien mal. » Dahl lui répondit, « Lorsque nous espérons tous, pourquoi désespères-tu, toi ?» Pouchkine secoua la tête. « Non, dit-il, les choses de la terre ne sont plus faites pour moi. Je vais mourir. Il paraît qu'il faut que cela soit ainsi. » Le pouls était plein et dur. On appliqua au blessé quelques sangsues. Le pouls devint plus accéléré et plus faible. Pouchkine remarqua que Dahl était moins abattu que les autres. Il le prit par la main et lui demanda « Il n'y a personne ici, Dahl ?»« Personne, » répondit celui-ci. « Alors dis-moi si je mourrai bientôt. »« Mourir, de quoi parles-tu ? Nous espérons au contraire. » Un sourire d'une ineffable tristesse passa sur les lèvres de Pouchkine. « Vous espérez, » dit-il. « Merci. » Dahl passa la nuit du 29 près de son lit, tandis que Joukovski, Vyazemski et Vielgorski veillaient dans la chambre voisine. Le blessé avait presque constamment tenu Dahl par la main, mais il ne parlait plus du tout. Il prenait un verre, il trempait ses lèvres dans l'eau froide, ou frottait ses tempes couvertes de sueur avec de la glace, mettait sur sa blessure des serviettes chaudes qu'il changeait lui-même, et quoiqu'il souffrît horriblement, ne laissait point échapper une plainte. Une fois seulement, il dit en jetant avec découragement ses bras derrière sa tête « Oh, quel horrible ennui ! Mon cœur, qui semble se fendre, ne peut donc pas se briser tout à fait ?» Alors il demandait à Dahl de le soutenir, changeait de position, faisait placer son oreiller plus haut ou plus bas, et sans donner le temps d'achever, il interrompait en disant « C'est bien, c'est cela, bien, très bien ainsi !» Ou bien « Attends, attends, ce n'est pas nécessaire, tire-moi un peu seulement par la main !» Une fois il demanda « Dahl, qui est chez ma femme ?» Beaucoup de braves cœurs qui prennent part à ta souffrance. L'antichambre et le salon sont pleins. Merci, répondit Pouchkine. Va dire à ma femme que tout est bien, sans quoi elle pourrait encore croire la chose pire qu'elle n'est. Et, en effet, la quantité de personnes qui venaient elles-mêmes prendre des nouvelles de Pouchkine ou qui en envoyaient demander était telle qu'à chaque instant, la porte de l'antichambre qui était près du cabinet de Pouchkine s'ouvrait et se refermait. Ce bruit incommodait le blessé. On ferma cette porte et l'on en ouvrit une autre qui donnait sur l'office. De cette façon, les personnes intimes entrèrent seules dans la salle à manger. Une fois, Pouchkine demanda « Quelle heure est-il ? » « 10 heures du soir, » répondit Dahl. « Ai-je encore longtemps à souffrir ainsi, mon Dieu ?» s'écria Pouchkine. « De grâce, plus vite, à quand la fin ? Plus vite, plus vite !» Il s'était soulevé, mais comme anéanti par l'effort, il retomba abattu et trempé de sueur. Quand la douleur triomphait de lui, ou quand cet ennui suprême dont il parlait était le plus fort, il faisait des gestes de la main et gémissait tout bas. « Hélas, mon pauvre ami, lui dit Dahl, il faut souffrir. Seulement ne rougis pas de ta douleur, plains-toi, cela te fera du bien. »« Non, non, répondit le blessé, ma femme m'entendrait, et il serait ridicule que cette niaiserie que l'on nomme la douleur l'emportât sur ma volonté. » Vers 5 heures du soir, les douleurs redoublèrent et l'agitation devint de l'angoisse. Seulement alors, Arendt s'expliqua positivement. Il dit que tout était fini et que le blessé ne passerait pas la journée. Le pouls était tombé, les mains étaient froides, les yeux fermés. Il ne remuait plus les bras que pour prendre lentement et silencieusement de la glace et s'en frotter le front. À 2 heures de l'après-midi, il ouvrit les yeux et demanda du maroska. Le maroska est un fruit qui tient le milieu entre notre mûre sauvage et notre framboise des jardins. On lui apporta ce qu'il demandait. Alors, d'une voix assez ferme, « Priez ma femme de venir, dit-il. Je veux que ce soit elle qui me le donne. » Elle vint, se mit à genoux devant le blessé, lui présenta 2 ou 3 cuillerées de confiture et mit sa joue contre la sienne. Alors Pouchkine caressa ses cheveux et lui dit « eh bien, cela va mieux, ce ne sera rien, va !» L'expression sereine de sa physionomie, sa voix ferme, trompèrent la jeune femme. Elle sortit presque rassurée. « Vous allez le voir, » dit-elle au docteur Spassky qui arrivait. « Il va mieux, grâce au ciel, il ne mourra point. » Et au moment où elle disait cela, le dernier jugement rendu par la mort était en train de s'exécuter. Sur cette assurance que Pouchkine allait mieux, ses plus intimes amis entrèrent. C'était Joukovski et Vielgorski. Dahl souffla à l'oreille de Joukovski. Voilà l'agonie qui commence. Cependant, les idées paraissaient encore limpides. Seulement, de temps en temps, un assoupissement les obscurcissait. Une fois, il prit la main de Dahl et, la serrant, il lui dit « Soulève-moi donc et allons plus haut, plus haut !» Était-ce un commencement de délire? Était-ce une aspiration vers Dieu? Revenu à lui, il continua en montrant sa bibliothèque. « Il me semblait que j'escaladais avec toi ces rayons et ces livres, bien haut, et la tête m'a tourné. » Quelque temps après, sans ouvrir les yeux, il chercha la main de Dahl et dit « Mais allons donc de grâce, partons ensemble !» Dahl, au risque de la souffrance qu'il pouvait lui causer, le prit alors par les deux bras et le souleva. Tout à coup, comme réveillé par ce mouvement, il ouvrit les yeux, sa figure rayonna et il dit « Ah, c'est donc fini, je pars, je pars !» Puis, retombant sur son oreiller, « Je respire à peine, ajouta-t-il, j'étouffe !» Ce furent ses derniers mots. Le mouvement de sa poitrine, calme jusque-là, devint saccadé et bientôt cessa tout à fait. Un soupir sortit de sa bouche, mais si doux, si calme, si facile, que pas un des assistants ne le remarqua. C'était cependant le dernier. « Eh bien, demanda Joukovski après un moment de silence. « Tout est fini, répondit Dahl. » C'était le 29 janvier 1837. Il était 3h15 de l'après-midi. Pouchkine n'avait pas encore 38 ans. Le lendemain, les amis du poète, Dahl, Joukovski, Vielgorski et Tourguenieff, le mirent au cercueil. Pendant tout le temps que le cercueil resta exposé dans la maison mortuaire, cette maison ne désemplit pas. Plus de 10 000 personnes vinrent lui rendre la visite suprême. On n'entendait que des sanglots. Les uns avaient perdu un parent, beaucoup un ami, tous un grand poète. La messe funèbre eut lieu le 1er février. Toute l'aristocratie de Saint-Pétersbourg, tous les ministres russes et étrangers y assistèrent. Puis, la messe finie, on porta le cercueil dans le caveau où il devait attendre son transport hors de la ville. Le 3 février, à 10h du soir, on se réunit de nouveau et l'on eut une dernière messe. Puis à minuit, au clair de la lune, qui semblait mélancoliquement éclairer le voyage funéraire du poète qu'il avait si souvent chanté, on mit le cercueil sur un traîneau, et le traîneau partit, suivi de Tourguenieff seulement. Plusieurs fois, Pouchkine avait dit à sa femme qu'il voulait être enterré au couvent de l'Assomption de la Vierge où reposait sa mère. Ce couvent était situé au gouvernement de Pskov, dans le district d'Oposkov, à 4 verstes du village de Mikhaïlovskoïe. Pouchkine avait passé là quelques-unes de ses poétiques années de la jeunesse. Le 4 février, à 9h du soir, le corps entra à Pskov, d'où le 5, à 7h du soir, il arriva à sa destination, passant pour arriver à sa dernière couche, près de 3 sapins isolés qu'il affectionnait et qu'il avait chantés. On déposa le corps dans l'église de la cathédrale où, le soir même, on chanta la messe funèbre. Peut-être me suis-je étendu un peu longuement sur l'agonie de Pouchkine, dont j'ai puisé les détails dans une lettre écrite par Joukovski à son père. Ces détails, dira-t-on, pouvaient intéresser un père qui vient de perdre son fils. Mais de même qu'il a 2 âmes, le poète a 2 mères. La première qu'il va rejoindre, comme le fit Pouchkine dans la fosse où elle l'attend, la seconde qui lui survit et qui veille sur sa tombe, mère jalouse, qui elle aussi veut savoir comment mourut son fils et qui s'appelle la postérité.